Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Humbeck. Titulaire d'un master européen de recherche en sciences de l'éducation et d'un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Rouen, Bruno est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service de sciences de la famille et de l'Université de Mons. Je vous souhaite une belle écoute.
Bonsoir.
Bonjour. Bonsoir.
Ça va, tu vas bien depuis
très bien. Oui, ça va, ça continue à aller.
Ouais, donc en fait, je vais reprendre un peu rapidement notre échange. Je trouvais ça hyper intéressant ce que tu me disais. Tu en es déjà au 40e livre que tu écris, c'est ça?
C'est ça.
Tu as commencé à écrire tes livres à partir de quand? Ça remonte à quand, le tout premier livre que tu as écrit?
Il y a une quinzaine d'années, hein, donc, mais j'écris depuis très très longtemps. Je suis publié depuis 15 ans.
Donc, ok. Et donc, tu me disais en fait que tu lisais entre un à deux livres par jour, c'est ça?
Oui, c'est une maladie. Hein. C'est une maladie qui en crée une autre qu'on appelle la graphomanie, hein, c'est-à-dire la tendance à tout le temps écrire, tout le temps produire et accumuler dans sa tête de la matière à penser. C'est ça un livre, hein. C'est de la matière à penser. Donc, c'est une façon de s'entourer d'amis qui sont toujours très recommandables, hein, qui sont les auteurs de tous ces livres.
Et on les retrouve où, tes livres? C'est toujours la même maison d'édition?
Non. Là, je suis un profond infidèle, c'est-à-dire que j'ai plein de maisons d'édition différentes parce que j'écris sur des thèmes qui sont parfois très, très différents. Et donc, ne pas être fixé à un seul éditeur, c'est aussi une façon de pouvoir voyager dans différents thèmes.
Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les thèmes que tu traites?
Alors, il y a évidemment tout ce dont on va parler, harcèlement, ouais. Cyberharcèlement, mais ouais. Évidemment que ce thème, c'est une façon de travailler sur des thèmes qui je sais, te sont aussi très, très chers, hein, qui sont la manière dont on utilise l'humour, la manière dont on éduque de façon positive. Hein, donc, c'est... Plutôt que parler d'éducation positive, moi, je préfère toujours parler de façon positive de faire de l'éducation. C'est un peu différent dans le mécanisme. Moi, je suis un pédagogue, donc je suis aussi un historien de la pédagogie. Et dans toutes les époques, il y a eu des personnes qui ont essayé de faire positivement de la pédagogie, avec ce qui leur était donné. Et donc, la pédagogie positive, c'est pas une nouvelle invention, c'est juste quelque chose qui prend, et j'aimais beaucoup le clip que je viens de voir, hein, parce que c'est l'éducation pour un monde de demain. On le sait qu'elle se met en place aujourd'hui. Elle doit être faite non plus avec des méthodes du 18e siècle, pour former des adultes du 21e siècle par des adultes du 20e siècle, mais des méthodes qui mettent en scène le monde que l'on désire et que l'on souhaite. Et donc, ça crée effectivement un foisonnement de thèmes qui s'articulent autour de cette volonté, finalement, à un moment donné. L'hyperparentalité, par exemple, hein, mais pas considérée comme un défaut ou comme une maladie, considérée comme une tendance normale liée au fait qu'on a... convoquer à naître nos enfants, pour la plupart d'entre nous, et les ayant convoqués à naître, on ne supporte pas l'idée qu'ils pourraient être malheureux dans un monde, et on doit renoncer donc à la triple imperfection, l'imperfection en tant que parent qui doit être assumée, l'imperfection de l'enfant qui doit être assumée, et l'imperfection du monde qui se rappelle à nos yeux en permanence. Et donc apprendre à renoncer à cette triple imperfection, apprendre aussi des manières d'être avec son enfant qui oblige le parent. J'aimais bien l'idée du bonheur de l'enfant, mais je crois qu'il ne faut pas oublier le bonheur du parent. Le devoir d'un parent, c'est d'être heureux, parce qu'un parent heureux, c'est celui qui va donner envie à son enfant de grandir. Et donc il y a une forme de devoir d'être heureux qui fait que je travaille à mon avis, essentiellement autour de ce thème-là, qui est la réduction de la tension sur l'enfant, sur l'éducation, pour que ce soit quelque chose qui autorise l'erreur, qui autorise le tâtonnement, que ce soit à l'école ou à la maison, et qui permet de mettre en scène un monde que l'on espère meilleur, parce que c'est par l'éducation qu'on changera les choses.
Mais bien sûr, bah, c'est tout ce que je dis, c'est tout ce que je prêche. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on se connaît quand même un petit peu parce que tu as déjà intervenu déjà pour le magazine Innovation et Éducation. Il y a quelques années en arrière, tu avais donné une conférence aussi au Festival pour l'École de la Vie. Et puis bon, on a toujours gardé contact de loin, quoi, quelque part. Enfin bon, bref, je vais quand même te laisser te présenter, Bruno, parce qu'il y a des gens forcément qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement ?
Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant de se présenter, parce qu'en en fait, en quelques mots, donc je travaille à l'Université de Mons, je suis professeur à l'Université de Mons, j'ai un plaisir plus important à être un chercheur, c'est-à-dire pas un trouveur, hein, je n'ai jamais rien trouvé, mais je cherche en permanence, notamment en matière de harcèlement et de cyberharcèlement, parce que c'est un domaine dans lequel on a des obligations en tant qu'adulte de proposer des solutions à nos enfants. On ne peut plus se contenter simplement d'essayer de décrire un phénomène, de le comprendre le mieux possible et de dire maintenant, il faut se débrouiller avec ça. Donc mon domaine, je vais dire, d'expertise, c'est sans doute le harcèlement et le cyberharcèlement. Mais pour le reste, faisant de la pédagogie, et de la pédagogie, on le sait, hein, quand on fait de la pédagogie, on a au moins un grand-père qui fait de la philosophie et un père qui fait de la psychologie, puisque la pédagogie vient à une filiation qui est celle-là.
Ah oui, c'est super. D'ailleurs, rentrons dans le vif du sujet de cyberharcèlement. Déjà, est-ce qu'il y a une définition au cyberharcèlement ?
Alors, il y a une définition juridique qui est catastrophique, parce que c'est elle qui, effectivement, envoie tout le monde dans le mur, et qui est aussi la définition du harcèlement, qui est considéré comme une agression répétée, intentionnel et relativement nuisible. Alors si je tiens cette définition-là du harcèlement, et on va voir le cyberharcèlement, ce n'est pas un autre harcèlement, c'est juste une caisse de résonance mise sur le harcèlement dit classique. On va mimer une scène, toi et moi, si tu veux bien, je vais te bousculer de manière répétée, de manière virtuelle, hein, puisqu'on n'est pas l'un près de l'autre, mais on va imaginer que je te bouscule de manière répétée, de manière intentionnelle et de manière nuisible, parce que ce n'est pas agréable d'être bousculé. Alors la question que je vais te poser, est-ce que je suis un harceleur, selon toi. Donc c'est répétitif.
Oui, forcément.
Non, je suis juste un emmerdeur. Si c'était juste ça le harcèlement, il suffirait que tu me dises d'arrêter, j'arrête, et si tu le fais pas toi-même, quelqu'un d'autre le fera. Maintenant, on va imaginer que chaque fois que je te bouscule, je regarde quelqu'un d'autre et j'introduis un sourire de connivence avec lui. Là, je deviens harceleur parce que je vais figer les rôles dominants, dominés et ceux qu'on appelle nous des spectateurs, c'est-à-dire ceux qui, en regardant, fiche les rôles. Petite scène classique de harcèlement, finalement acceptée dans la réalité de tous les jours, les blagues sur les blondes. Si je fais une blague sur les blondes, je vais jamais, parce que je suis un homme, donc fondamentalement un peu lâche, je ne vais jamais le faire en seul à seul face à une femme blonde. Parce que si elle ne rit pas, je vais me retrouver avec mon humour un peu lourd sur les bras, et si elle me fait remarquer que je ne suis pas drôle, c'est comme si elle me mettait une enclume dans les mains. Je vais donc faire ce que font toujours les hommes. Alors on va attaquer groupé, en meute. Je vais faire des blagues sur les blondes avec un public très complaisant qui va rire à chacune de mes blagues. La dame en blonde va être très vite coupable trois fois, coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si elle ne rit pas, on va dire elle n'a pas d'humour, hein, mais c'est parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est blonde, et on va l'enfermer à l'intérieur de l'agression. C'est pour ça que une des composantes du harcèlement, c'est l'impuissance à réagir. Ça, il faut déjà le dire aux parents d'emblée. La première chose qu'on doit avoir comme réflexe, le premier réflexe qu'on doit avoir par rapport à son enfant, c'est surtout concevoir qu'il n'est pas en situation de s'opposer à ce qui lui arrive. Dire à un enfant, défends-toi par toi-même, trouve des solutions, réponds du tac au tac, fais preuve de vivacité d'esprit, par exemple. Je vois beaucoup de livres qui sortent d'ailleurs sur ce thème-là, et dans lequel on donne l'impression à l'enfant qu'on peut l'outiller contre cette forme d'agression qui est celle qui est provoquée par un nombre. Hein, dans le harcèlement entre pairs, c'est un nombre qui crée le sentiment de puissance, et sur le cyberharcèlement, c'est encore plus important. Et il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau, c'est notre meilleur allié pour se protéger. Ça veut dire que si tu es agressé par quelqu'un qui a autorité sur toi, qui a plus de puissance que toi, des gens qui sont plus nombreux, tu vas avoir un phénomène tout à fait étonnant, c'est que tu seras incapable d'avoir ce qu'on appelle l'esprit de répartie. Et tu vas me dire 3 jours après ou 3 heures après, j'aurais dû leur dire ça. Parce que simplement, ton cerveau organise ta survie. Il a décidé que c'était pas la peine de s'opposer. Et donc, tu te retrouves effectivement à regarder tes chaussures, à rougir, à adopter un tas de comportements qui font que beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents finissent par se dire « mais c'est normal que je sois harcelé ». D'abord, un, il y a des caractéristiques qui justifient ce harcèlement, ça il faut déjà tout de suite le dire aussi, il n'y en a absolument pas dans le harcèlement, et on verra tout à l'heure encore moins dans le cyberharcèlement, il est tout à fait aléatoire. Et les personnes qui sont le plus sujettes à être agressées sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, touchent plus des personnes qui n'ont manifesté aucun signe de faiblesse. Ce sont généralement, moi j'ai un poster dans mon bureau avec toutes les victimes en Fédération Wally-Bruxelles de cyberharcèlement, donc les personnes qui se sont données la mort. Il y a une caractéristique commune à tous ces visages, c'est que ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont particulièrement beaux. Ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons qui ont suscité chez les autres une forme d'envie parce que tout leur réussissait. Et puis, ils ont manifesté une faiblesse, une imprudence sur les réseaux sociaux et toute la meute, effectivement, s'est acharnée contre elles. On ne sait rien faire face à une meute, si ce n'est signer le repli quand on peut. Et malheureusement, c'est très compliqué, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on dit à un enfant... d'abord, ou un adolescent, aucune caractéristique ne justifie que tu es harcelé. Ne cherche pas, il faut bien comprendre que le harcèlement, ça se produit d'ailleurs de façon assez saisonnière. Ici, on est en train de rentrer dans la moyenne saison du harcèlement. Il y a une basse saison, c'est septembre. Le mois de septembre, tout va bien dans toutes les écoles. C'est normal, ce sont des groupes humains contraints, donc des personnes qui sont obligées de partager un temps de vie sur un même territoire. On le voit actuellement, quand on relance la Star Academy. La Star Academy, c'est une situation expérimentale qui montre ce que sont des êtres humains quand ils partagent un territoire ensemble pendant un temps déterminé. Dans un premier temps, euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble? Si j'interroge des enseignants en septembre, ils me disent « on a un bon esprit d'équipe cette année » et ils rajoutent « je pense que j'ai une bonne classe ». Ça ne va pas durer, ça c'est la bonne saison, et ça s'arrête vers le 15 octobre. Là, on commence à voir les premières secousses émotionnelles. On a des rejets qui commencent à se manifester. En maternelle, c'est sous forme de bousculade. Plus l'enfant grandit, plus ça a une fonction identitaire. On ne veut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu es roux, parce que tu sens mauvais. On commence à rejeter. Dans la Star Academy, on va proposer de faire des nominations. Il ne faudra pas les pousser dans le dos. C'est un mécanisme humain tout à fait habituel après l'euphorie communautaire. C'est ce qui nous pousse, dans les groupes dont on fait partie, à parler sur le dos les uns des autres. Et quand je l'explique aux enseignants, je dis, ne me dites surtout pas que vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, d'ailleurs, faites-le. Parce que si vous ne parlez pas sur le dos les uns des autres, vous n'allez pas maintenir l'illusion que l'euphorie communautaire est possible. Il faut pouvoir se dire, si un tel n'était pas là, on serait mieux, si une telle disparaissait. Et c'est pour ça que dans la Star Academy, il ne faut pas les pousser dans le dos. On va leur demander de nominer, ils trouveront des personnes. Ça, c'est la moyenne saison. Les parents ne parlent pas de harcèlement, généralement, à cette période-ci de l'année. Ils disent qu'il y a des difficultés d'intégration, que l'enfant souffre, qu'il est en difficulté, etc., dans la classe. À partir du mois de janvier, là, on entre en haute saison, parce que les groupes, les sous-groupes et les couples sont constitués dans les classes et qu'ils vont souder leurs liens en agressant ceux qui sont à l'extérieur. On le fait tous comme ça, y compris dans nos couples. Si dans nos couples, on décide à partir d'aujourd'hui d'être uniquement bienveillant, de ne plus nous moquer de personne et de ne plus critiquer personne. Au bout d'un moment, il faudra qu'on consulte, parce qu'il y aura trop d'agressivité dans notre couple. On a besoin de souder nos liens en critiquant des personnes qui sont à l'extérieur. Ce sont des phénomènes humains, mais qui vont expliquer cette mise en place des mécanismes de harcèlement qui vont s'arrêter à peu près vers la mi-mai, où on aura de nouveau une basse saison. Basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison. C'est un mouvement saisonnier. On pourrait dire on va laisser faire, puisque c'est saisonnier que ça s'arrête. Non, on le sait que les mouvements saisonniers créent du fatalisme et que le fatalisme est effectivement porteur de beaucoup de souffrance, parce qu'on sait que les mouvements reviennent et que pour un enseignant, c'est exténuant, cette idée d'être toujours confronté à des problèmes dans lesquels il perçoit effectivement que dans le groupe, il y a des difficultés. Tous les enseignants le savent. Ils savent bien que ce n'est pas le pays des bisounours. Ils savent bien qu'il y a des élèves qui souffrent. Et vous savez, les enseignants, ils ont une caractéristique professionnelle qu'ils ne partagent avec personne d'autre. Ils ont tous été des anciens élèves. Ils sont rentrés un jour dans une boîte qu'on appelle l'école, ils ne l'ont pas quittée. Et donc, ils sont là avec leurs souffrances d'élèves. Et ils perçoivent effectivement que d'autres vivent des souffrances. Et ça réveille leurs propres souffrances. C'est ce qu'on appelle les burn-out de compassion, un compassionnel dans lequel il y a une forme d'usure de compassion qui s'installe. Et c'est pour ça qu'on doit absolument outiller les enseignants pour qu'ils sachent comment réagir quand il y a des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement.
C'est clair, parce que bah, oui, j'ai plein de questions.
Vas-y.
Mais du coup, la première qui me vient à l'esprit, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est comment un enseignant, justement, déjà, il peut détecter ça?
Alors, ça, c'est une très belle question, parce qu'il ne doit surtout pas chercher à détecter. C'est tout le problème du harcèlement, c'est une violence invisible, le cyberharcèlement encore plus. Je le disais tout à l'heure que les caractéristiques de tous ces adolescents, c'est de très beaux jeunes hommes, de très belles jeunes filles. L'autre caractéristique, c'est que tous les parents qui m'ont confié ces photos ont tous vécu la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien vu venir. C'était comme un éclair dans un ciel bleu, un orage, alors que tout allait bien, leur enfant se développait très bien, il n'y avait aucun signe avant-coureur, il n'y en a pas. Il y en a parfois un peu dans le harcèlement, il n'y en a strictement aucun dans le cyberharcèlement, parce que c'est fulgurant, ça va très vite, c'est pour ça que la définition ne tient pas la route. On peut vivre ce qu'on appelle un flaming, c'est-à-dire être incendié en très peu de temps, et aucun signe avant-coureur. Alors quand on dit à des parents qu'il y a des signes avant-coureurs, évidemment, ils se culpabilisent très fort, et quand j'entends, comme je l'entends très souvent, beaucoup plus encore en France qu'en Belgique, il faut faire en sorte que les enseignants puissent repérer les micro-signaux, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas. Et que si ce sont des micro-signaux, par nature, ils sont terriblement difficiles à percevoir, on ne peut pas demander ça aux enseignants. Comme on ne peut pas voir les choses, il faut faire en sorte qu'elles se révèlent. Il faut que les enfants, que les adolescents osent dire des choses, ce qui n'est pas le cas pour le moment, pour plusieurs raisons. Hein. On sait qu'il y a 6,8% des enfants qui vivent du harcèlement qui en parlent. Ils n'en parlent pas à leurs parents pour une raison finalement qui est liée à leur délicatesse, hein, c'est ce que j'explique toujours aux parents qui sont étonnés d'entendre leur enfant dans mon bureau raconter tout ce qu'il est en train de vivre, et ils me disent, mais ils lui disent, pourquoi tu nous as pas dit ça? Je suis toujours obligé de répondre, parce que vous avez un enfant terriblement délicat. Votre enfant veut vous ménager simplement. En tant que parent, on le sait, quand on va chercher notre enfant à l'école, la première question qu'on lui pose, c'est « ça a été ?» Parce qu'on attend un oui, et qu'on ne veut surtout pas, effectivement, que ça n'ait pas été. L'enfant perçoit très très vite ça, et il se dit « si je raconte mes chagrins à mes parents, eh bien je vais leur faire de la peine, et j'aurai en plus cette peine à porter, donc je préfère me taire. » Et c'est pour ça qu'ils ne disent rien. J'ai en tête toujours ces lettres qui ont été écrites par les adolescents et les adolescentes avant de se donner la mort et qu'ils confient à leurs parents. Ce sont des lettres terriblement difficiles à lire et c'est à peu près toujours le même libellé. Un enfant qui dit « je vais vous désespérer, j'en suis désolé » et « je ne vous ai rien dit jusque maintenant parce que j'avais peur de vous faire de la peine ». Donc il faut imaginer cette espèce de délicatesse paradoxale. Pour vous ménager, je ne vous parle pas de ce que je vis, mais je décide de renoncer à la vie. Les enfants ne parlent pas à leurs parents, ils ne parlent pas aux enseignants, non pas parce qu'ils estiment que leur enseignant risque d'être soupçonné d'une forme de malveillance. Au contraire, les enfants, les adolescents savent que dans leur environnement scolaire, il y a des gens bienveillants. Moi, chaque fois que je demande à un enfant, à un adolescent, est-ce qu'il y a quelqu'un en qui tu as confiance à l'école, il me cite toujours son instituteur, son institutrice, un éducateur, un enseignant, mais il rajoute « mais je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire ». Et j'ai peur qu'il fasse pire que mieux. Et donc le problème, ce n'est pas la bienveillance, au contraire, la bienveillance affichée. Et il y a un film magnifique que je conseille vraiment à tout le monde de regarder une fois, deux fois, dix fois si on veut comprendre le harcèlement, c'est « Un monde » de Laura Vandel. C'est un film d'une réalisatrice belge qui a été primée à Cannes d'ailleurs, et qui est un film absolument extraordinaire, qui montre ce qu'est une cour de récréation réelle, et on peut imaginer la même chose dans une cour de récréation virtuelle vue à hauteur d'enfant, et qui montre surtout des enseignants sans que ce soit un brûlot contre l'école. Il ne s'agit pas de dire que les enseignants ne veulent pas faire les choses, ne font rien, etc. On a cette enseignante merveilleuse qui explique à cette petite fille « Tu sais, on aimerait bien aider les gens, mais on ne sait pas toujours comment faire. » Et tout le problème de l'enseignant démuni face au harcèlement, c'est pour ça qu'il est absolument intolérable de laisser les écoles démunies face au phénomène. Alors qu'on sait, on va certainement parler ce soir, que les outils existent, mais il faut les mettre à disposition des enseignants pour qu'ils puissent les activer au sein de l'école, parce que être bienveillant ne suffit pas. Si je te dis que tu as une opération chirurgicale à passer ce soir relativement importante, et je vais te présenter deux chirurgiens. Le premier, il est super sympa. Il est très bienveillant, il est bourré d'empathie, mais tu vas être sa première opération. Il n'a jamais opéré avant aujourd'hui. Et bah, les outils, il vient de les acquérir et il n'est pas très sûr de leur valeur. Il y en a un autre, il est bourru, il est méchant comme une teigne, il a un caractère de chien, mais ça fait 25 ans qu'il fait cette opération-là. Et bah, son matériel, il est de dernier cri. Tu prends lequel ? Probablement le deuxième chirurgien, et c'est ce que les enfants font aussi. Ce dont ils ont besoin, c'est des adultes qui savent exactement comment réagir une fois que le problème n'a pas été identifié, mais a été révélé. Le principe, c'est qu'un enfant va oser parler s'il sait qu'il a affaire autour de lui d'adultes, que ce soit les parents qui, eux, ne doivent pas agir, parce qu'on sait que c'est l'école qui doit agir en étant outillée, mais des parents qui savent que l'école est outillée ou qui invitent l'école à s'outiller et qui, donc, ne sont pas dépassés par le harcèlement, et on va le voir, par le cyberharcèlement encore moins. Si on diabolise les écrans auprès de ces enfants, parce que c'est vrai, et ta revue sur les écrans, ça devrait être remboursé par la Sécu.
Oui.
Parce que c'est effectivement quelque chose qui tétanise les parents. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Victor Hugo. Toutes les progressions technologiques évoluent comme une roue avec deux faces. Une face qui fait avancer les choses, une autre qui broie les gens. Et donc, il ne s'agit pas de dire on est contre les écrans, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ta ligne éditoriale, c'est qu'on n'est pas contre ou pour les écrans. On essaye juste de voir comment les écrans peuvent ne pas nuire et comment ils peuvent être utilisés pour construire du vivre ensemble. Et donc, dire à son enfant, les écrans ne vont pas te tuer, hein. Tu es encore trop jeune, attends d'avoir 12 ans, attends d'avoir 13 ans, attends d'avoir 14 ans, c'est diaboliser l'écran, c'est la meilleure façon de créer le silence. Il finira quand même par aller dessus, il prendra un avatar, il ira chez un copain, mais il ira dessus, et s'il lui arrive quelque chose de compliqué, ben, il n'en parlera pas parce qu'il sait ce qu'il va entendre, on t'avait dit de ne pas aller là-dessus. Alors que si on lui dit, c'est génial les écrans, tu vas voir, c'est super, mais si t'arrive quelque chose, parce qu'il y a des éléments nocifs qui peuvent arriver, tu nous en parles parce qu'on sait comment on devra réagir. Là, on va créer effectivement la possibilité de mettre en place des vraies réponses pour l'enfant.
Ouais, ça change tout. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Pour moi, quand on parle de harcèlement, il y a une notion de répétition dans le harcèlement. Ou est-ce que juste une fois suffit à ce que ce soit du harcèlement ?
Sur les réseaux sociaux, juste une fois suffit. C'est d'ailleurs une des caractéristiques qui fait que le cyberharcèlement casse les codes habituels, et notamment les codes juridiques en matière de harcèlement. C'est ce qu'on appelle le flaming. Ça peut être du revenge porn. Ce qu'on appelle du revenge porn, et j'aime pas trop le mot, je préfère porno divulgation, parce qu'on n'est pas toujours même dans la revanche. On est parfois dans le jeu de séduction qui tourne mal. Hein. Il faut bien comprendre ça quand on veut comprendre les mécanismes qui sont derrière le cyberharcèlement. C'est que les réseaux sociaux, ce ne sont pas des outils de communication. Ce sont des instruments d'installation du prestige social. Le but, c'est d'exister aux yeux des autres, d'obtenir des likes, plein de likes, hein, c'est la monnaie adolescente, de finir sur YouTube et de devenir un YouTuber. Ça, c'est la carrière parfaite. C'est pas l'équivalent du téléphone, hein. C'est pas comme si c'était un moyen de communication. Le tout, c'est d'exister. TikTok ne me fait exister par les likes que je produis, etc. Et donc, effectivement, il faut qu'on puisse comprendre ces mécanismes-là. Et comme le harcèlement est une agressivité essentiellement hiérarchique, le but du jeu, c'est d'avoir du pouvoir, de manifester ce pouvoir de manière spectaculaire. Par exemple, et on sait que tous les systèmes qui préviennent le harcèlement ou qui sont capables de réagir au harcèlement sont des systèmes qui sont capables de distinguer l'humour de la moquerie. Ça, c'est impératif. L'humour, c'est le sarcasme qui brise, c'est la dérision qui rend tout petit, c'est l'ironie qui met à distance. Ce sont des stratégies qu'un être humain utilise quand il veut prendre le pouvoir pour amoindrir quelqu'un avant de l'évacuer. Dans le harcèlement et le cyberharcèlement, on voit que c'est la première stratégie qu'on met en place, avec des personnes qui, quand on intervient à ce moment-là, disent « mais c'est pour rire, hein, monsieur, c'est pour rire, madame, on est dans l'humour ». Puisqu'on le voit, de manière continue, les modèles de domination sont des modèles qui sont hyper valorisés socialement. Il y a des tas d'émissions, hein, et en France, on en connaît énormément, mais il y en a en Belgique aussi, où il suffit de mettre un animateur qui pouffe, même pas qui rit, qui pouffe. Vous avez Ruquier qui faisait ça très très bien. Et en pouffant, il libère l'agressivité hors norme de ses chroniqueurs. Parce que tout ça, c'est pour rire, donc on a le droit, sans limite, de massacrer des gens. Et donc, on se retrouve effectivement devant des critères qui ont tout à fait été perturbé chez les enfants et les adolescents sur ce que sont les mécanismes de domination. Je prends souvent comme exemple de harceleur qui a été très popularisé, c'est le Dr House. Dr House est un harceleur absolu. Il a décidé que l'empathie était encombrante et qu'on avait le droit de casser tous les autres. quand je suis en conférence et que je demande qui aime le Dr House, j'ai même pas besoin de poser la question, il suffit que je regarde notamment des femmes qui tout de suite se mettent à sourire quand elles entendent Dr House. C'est un mâle dominant, il est bourré il a un énorme potentiel de séduction, et alors je les vois, je comprends qu'ils vous séduisent parce que c'est un mâle dominant. Et je leur dis, mais c'est un salaud quand même. Et là, leur sourire s'agrandit. Plus il est dominant, plus il agresse, plus il prend cette posture dominante, plus sa petite cour le trouve effectivement séduisant. On a énormément d'enfants, d'adolescents qui sont des petits Dr House miniatures, qui vont installer leur prestige, qui sont poussés par le groupe pour le faire et qui vont casser, massacrer, etc. Et donc, il faut qu'on puisse casser ces mécanismes-là. On va le faire notamment en faisant en sorte que ce ne soit pas le dominant qui ait le monopole de dire si on est dans l'humour ou la moquerie, mais qu'on protège les émotions de ceux qui sont en difficulté. Première règle d'un espace de parole régulé, qui est un des outils qu'on met en place dans les écoles pour s'opposer au harcèlement, une émotion se dit, ne se contredit pas. La tristesse, colère, peur, joie, dégoût. Si je suis triste, personne n'a à me dire que je n'ai pas à être triste ou que je n'ai pas à être aussi triste que ça. Si je suis en colère parce qu'on se moque de moi, il ne s'agit pas qu'on me dise que c'est de l'humour. Parce que ce n'est pas l'émetteur qui définit si c'est de l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur. Et là, on a des mécanismes, je vais dire, qui pour le moment se sont installés, qui ont rendu cette puissance, par exemple, de la moquerie, qui se manifeste de manière imposante, qui s'impose aux personnes avec un nombre de spectateurs énorme qui donne un sentiment d'écrasement fulgurant. Une moquerie publique qui me fait complètement perdre la face. La diffusion, par exemple, pour bien comprendre ce qu'est la pornodivulgation, d'une image de moi que j'aurais imprudemment confié aux réseaux sociaux. Alors, il faut surtout éviter de jeter la pierre aux adolescents ou adolescentes qui ont fait preuve d'imprudence, dans les jeux de séduction notamment. Les liaisons dangereuses, ce n'est pas un roman moderne. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont adultes, qui sont dans des jeux de séduction et qui commettent des imprudences. Parce que le jeu de séduction, effectivement, le fait. Et il faut savoir qu'effectivement, la séduction sur les réseaux sociaux suppose d'obtenir des likes, par exemple. Si je montre mon bras sur un réseau social, ou si une jeune fille montre son bras, elle aura très peu de likes. Tout le monde se fout de son bras. Et ce qu'on appelle un daddy pics, c'est montrer une partie de son corps, éventuellement agrémentée d'un tatouage. Si on montre son bras, on a très peu de likes. On va montrer donc une partie de sa poitrine. Et là, on va voir les likes augmenter. Mmh. Et puis, vous allez montrer votre poitrine en entier. Là, les likes vont effectivement augmenter encore plus fort. Et plus vous rentrez dans des zones intimes, plus vous êtes galvanisé par la production de messages approbateurs. Et donc, il suffit d'une imprudence, parce qu'on est sur un réseau. Alors, pour l'expliquer, je vais prendre Messenger et Facebook. En fait, les jeunes ne sont plus sur Messenger et Facebook. C'est juste pour les gens de notre âge. Mais ils ont l'équivalent, en fait, avec des réseaux privés, dans lesquels ils se livrent à ces imprudences. Et puis, un seul clic, le lendemain, en prenant le bus, on a le sentiment que tout le monde nous a vus sans vêtements. Et le sentiment est aggravé par le fait qu'on se dit non seulement tout le monde m'a vu sans vêtements, mais tout le monde sait que mes proches vont me voir sans vêtements, et mes proches savent que tout le monde m'a vu sans vêtements, et donc vous êtes complètement anéanti. Il suffit d'une agression. Le côté répétitif n'est absolument plus une obligation. De la même façon pour la moquerie, pour les saillies qui prennent une puissance démesurée, et ça c'est vraiment important de le comprendre, parce que on ne peut pas évaluer de l'extérieur, ça c'est de la moquerie, ça c'est de l'humour. La seule façon d'évaluer la différence entre les deux, c'est de donner pleine puissance à l'émotion ressentie. Si je suis en colère, c'est moi qui vais décider que parce que le message m'a affecté, c'est un message moqueur. C'est pas l'émetteur, c'est le récepteur qui définit si on a l'humour ou la moquerie. Et c'est terriblement important parce que dans nos sociétés, c'est typique de nos sociétés, on a introduit une confusion en mélangeant l'ensemble. Les Grecs étaient beaucoup plus subtils que nous. Ils avaient deux mots différents pour parler du rire positif, ce qu'ils appelaient le gélan, qui est un rire qui se produit dans des contextes de sécurité, qui est un rire qui est essentiellement dans des contextes ludiques, sécurisants et créateurs de liens bienveillants. Donc cet humour-là, aucun souci, il peut fonctionner sans problème. C'est l'humour d'ailleurs qu'on vit les uns par rapport aux autres et qu'on peut subir soi-même si on est chatouillé par quelqu'un ou si on chatouille quelqu'un. Sauf que si on sort ce soir de chez nous et qu'on est chatouillé par quelqu'un qui ne nous connaît pas, personne ne va trouver ça drôle. On ne rit pas parce qu'on a besoin de contexte de sécurité. Si on est dans pleine scène de ménage et que notre conjoint, il lui arrive d'essayer de nous chatouiller pour essayer de nous faire rire, on va très très vite le renvoyer à ses chères études parce que le contexte doit être ludique. Et si ben, les auditeurs veulent voir à quel point c'est relationnel et nécessairement relationnel et bienveillant, ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas à l'écran, je leur propose de s'auto-chatouiller. C'est-à-dire qu'ils se chatouillent eux-mêmes. S'ils rient, en s'auto-chatouillant, ils doivent consulter. C'est qu'ils ne sont pas bien. L'auto-chatouillement ne produit pas de rire parce que c'est toujours dans la relation. Mais ce rire-là n'est pas un rire problématique et donc il peut se diffuser sans problème. Par contre, il y a un autre rire, beaucoup plus problématique, c'est celui qu'on appelle le katagelan. Le premier rire, il vient du gazouillis des singes juvéniles, des petits singes, le petit singe, le petit rat, mais toujours les petits. Les adultes singes ne rient pas, mais les petits ont cette espèce de gazouillis qui se produit dans les contextes de sécurité, ludique et créateur de liens bienveillants. Mais il y a l'autre rire, le katagelan, lui, il vient du rictus menaçant des singes adultes. Si vous voulez voir ce rictus, vous allez dans un jardin zoologique, vous envoyez votre poing en direction, faites semblant d'envoyer votre poing en direction des chimpanzés, vous allez voir, ils vont retrousser leurs lèvres, ils vont montrer leurs dents. Les gens qui ne connaissent pas les chimpanzés disent « Regarde, ils rigolent ». En fait, ils ne rigolent pas. Hein. Ils défendent son territoire et éventuellement, ils agressent le vôtre. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo, vous tapez Donald Trump. Vous allez voir, il a le rictus menaçant des singes adultes. Il a le regard ciblé, les mâchoires acérées, et vous allez comprendre le mécanisme du harcèlement et notamment le rôle qui joue la moquerie, parce que vous allez constater un phénomène tout à fait typique, c'est que vous allez trouver Trump drôle si vous partagez ses cibles. Si vous pensez comme lui que les Mexicains sont des êtres inférieurs, etc., les partisans de Trump le trouvent irrésistible. Si vous ne partagez pas ses cibles, vous n'aurez aucun mal à ne pas le trouver drôle. Et vous allez même le trouver agaçant. Et c'est pour ça qu'un enfant, un adolescent qui perçoit cette moquerie partagée, il perçoit la teneur agressive qu'il y a derrière et il vit ça effectivement comme une menace par rapport à son identité parce que effectivement, ben, tous ces gens qui se moquent de moi, eh bien, je ne sais pas m'y opposer. Et si même je m'y oppose, on va dire que je manque d'humour. C'est une des difficultés majeures qu'il y a dans nos sociétés. Et c'est pour ça qu'il faut des espaces de parole où les émotions sont protégées pour qu'on puisse intervenir de manière adéquate par rapport à la parole de celui qu'on aura libéré.
Ouais, j'ai une question qui vient à l'esprit. Est-ce qu'on on peut considérer que les enfants, alors peut-être qu'il faut déterminer les tranches d'âge, tu penses qu'ils sont conscients d'être des harceleurs?
Mais même les adultes ne le sont pas toujours. Et donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir, à un moment donné, mettre en scène, dans des espaces de parole protégés, les émotions qui sont vécues, pour qu'on puisse déconstruire ce mécanisme que je suis en train d'expliquer, qui est toujours un mécanisme de groupe, pour qu'il y ait une prise de conscience suffisante. Maintenant, elle n'est pas systématique. Hein. Vous avez effectivement, notamment, ben, les personnes qui cassent les autres par l'humour. Si vous voulez être un humoriste agressif de qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui assume ce statut de moqueur, vous devez geler vos neurones miroirs. Si vous avez pitié des personnes que vous agressez verbalement par l'humour, votre humour, il y aura une espèce de frein à main. Et beaucoup de gens, d'ailleurs d'humoristes, revendiquent le droit à l'outrance. Je ne suis pas tellement d'accord avec eux, mais eux vont signaler que l'humour, on a le droit de transgresser. C'est vrai, par rapport aux institutions, l'humour a ce rôle de transgression et pour agresser les institutions, pour que les institutions ne soient pas toutes puissantes, pas par rapport aux personnes. Dire on a tous les droits et on a le droit de la transgression, y compris quand on s'attaque à des personnes, je pense que c'est un très très mauvais message qu'on produit, notamment auprès des enfants et des adolescents. Et donc, il n'y a pas toujours conscience. Je vais d'ailleurs te faire un aveu, j'étais dans une conférence récemment à Namur, en Belgique ici, et puis à la fin de la conférence, il y a des questions et puis des réponses. C'était un endroit qui n'était pas très éclairé, et personne lève son doigt, on lui donne la parole, et je reconnais vaguement ses yeux, mais très vaguement. Et il prend la parole, il me dit « Mais tu fais des belles conférences sur le harcèlement, mais tu te rappelles en réto ?» Et là, il me cite une scène dans laquelle, très clairement, je suis dans la posture du harceleur. Moi, j'avais juste cru que j'étais drôle. J'avais juste, effectivement, ben, joué mon petit Dr. House, ça fait rire les autres. Lui se rappelait, mais des années plus tard, hein, ça fait plus de 45 ans qu'il me rappelait cette situation-là, dans laquelle il sait qui était là, il sait ce que j'avais dit, et il a gardé la scène. C'est un grand moment de solitude pour moi, hein, parce que je me retrouve devant tout un public, hein, me dit, mais voilà. Eh ben oui, je prends conscience que là, ouais, effectivement, je suis en train de mettre en scène quelque chose qui est de l'ordre du harcèlement. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde, a intérêt à ce que les écoles aient des réponses, parce que tout le monde souffre du harcèlement. Il y a beaucoup de recherches qui font dépenser énormément d'argent pour savoir la proportion de personnes harcelées. C'est un truc des politiques, d'ailleurs, pour pouvoir ne pas agir. Ils essayent de mesurer, ils prétendent qu'on a besoin d'éléments de mesure. Et on arrive toujours à peu près à la même chose, 15% de harceleurs, à peu près 10% de harcelés. Et puis, vous avez d'autres recherches qui disent 90%. Alors, on se dit, mais ça ne veut plus rien dire. En fait, tout le monde est concerné et tout le monde souffre. Je fais souvent l'exercice quand je suis devant un public d'enseignants, je demande qui, ici, je vais vous demander de mettre dans votre tête un souvenir d'élève dans lequel vous avez rencontré de la souffrance, soit parce que vous avez fait pleurer quelqu'un, soit parce que vous avez pleuré, soit parce que vous avez vu quelqu'un pleurer. J'ai toujours à peu près les mêmes proportions. 15%, un peu plus parfois, estiment avoir été victimes de quelque chose qui les a fait pleurer, qu'ils peuvent éventuellement appeler du harcèlement. 15% ont fait pleurer quelqu'un, et les autres, ce sont ceux qu'on appelle les spectateurs. Et il faut savoir que tout le monde souffre dans une situation de harcèlement. Si vous êtes harcelé, vous souffrez forcément, puisque vous êtes la cible des agressions des autres. Mais si vous êtes harceleur, vous risquez de souffrir dans le moyen et dans le long terme. Tous les parents dont les enfants sont harceleurs doivent connaître ces chiffres, qui sont ceux des recherches qui montrent que l'avenir est beaucoup plus sombre pour un harceleur que pour un harcelé, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel, tout simplement parce que pour avoir une carrière longue durée de harceleur, il faut geler ses neurones miroirs, et que ces neurones miroirs ont beaucoup d'importance dans notre vie professionnelle et dans notre vie affective et personnelle, et ce qui fait qu'eux aussi ont intérêt à ce qu'on réveille ces neurones miroirs en les rendant sensibles aux émotions qu'ils provoquent. Et ceux qui souffrent le plus immédiatement, moi je l'ai systématiquement quand je vais dans une école lorsqu'il y a eu un passage à l'acte suicidaire. J'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup d'écoles après un passage à l'acte suicidaire. Et ce qu'on constate, c'est que les harceleurs directs, c'est-à-dire ceux qui étaient au centre du processus, ont l'air, et je pèse mes mots, ils ont vraiment l'air de moins souffrir que les autres. Ils vous sortent d'ailleurs des choses tout à fait odieuses. Quand vous dites comment tu vis les choses depuis que la personne s'est suicidée, ils vous sortent des horreurs. Du style, elle a bien fait de se foutre en l'air, de toute façon, c'était une conne. C'est normal, ils ont gelé leurs neurones miroirs. J'avais une maman dans mon bureau qui me disait, ils ont été à la morgue, ils ont mis leurs doigts sur l'endroit, sur le cou dans lequel il y avait encore une marque de corde et ils ont rigolé. C'est le principe d'essayer de tenir debout en gelant complètement ces neurones miroirs. Mais ceux qui pleurent dès le premier entretien, ce sont ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont été spectateurs et donc spectateurs, puis qui savent qu'en regardant simplement, ils ont joué un rôle. Il n'y a pas de témoin dans le harcèlement. Il n'y a que des participants. On est automatiquement un participant. Ceux-là, ils craquent tout de suite parce que leurs neurones miroirs sont actifs et donc ils se mettent à pleurer directement. Ça veut dire que tout le monde souffre des situations qui génèrent de la souffrance à l'intérieur du groupe classe. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir des outils, des techniques mises à disposition des écoles.
Mais justement, j'allais en venir. Là, ce que j'entrevois, c'est une grande approche pédagogique, mais pas que pour les enseignants, pour les parents et pour les enfants. Ouais, c'est ça.
Alors, il faut que les écoles soient outillées. Alors, en gros, je ne vais pas développer tout ça et développer dans les livres. Ce sont des outils techniques. Alors, il faut bien se dire, ça ne nécessite pas des formations longue durée. Moi, j'ai longtemps formé des enseignants et je me suis rendu compte que c'est pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils veulent, c'est des techniques. J'ai écrit beaucoup de livres, notamment sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Et mes éditeurs me disaient toujours, mais ils sont trop longs tes livres. Les enseignants, ils lisent pas des bouquins de 300 pages. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. Fais des livres de 100 pages. Alors, je fais des livres de 100 pages. Et ils m'ont dit, c'est trop long, ils lisent pas tes 100 pages. Et maintenant, je fais des fiches-outils. Et je me propose de les mettre à disposition de toutes les personnes qui t'en feraient la demande. Ce sont des fiches-outils qui permettent simplement aux enseignants de dire, voilà, comment je mets en place un espace de parole régulé. C'est tout simple à mettre en place. En gros, pour l'expliquer très très brièvement, les élèves sont en cercle, chacun choisit des émoticônes, mais on n'a que 5 émotions, on ne va pas dans les états d'âme, on ne va pas dans les sentiments, on reste figé avec les émotions, et on a 5 règles à faire respecter. Première règle, une émotion se tit, ne se contredit pas, ça veut dire qu'on va protéger l'émotion de celui qui parle. Personne ne peut atténuer l'émotion, et personne ne peut la rendre illégitime. C'est important qu'on fasse une règle, parce que plus on est humain, plus on est proche de celui qui exprime son émotion, plus notre tendance naturelle, c'est de lui dire qu'il ne doit pas éprouver cette émotion-là. Si un de nos proches est triste, notre premier réflexe, c'est de lui dire « sois pas si triste. Tes raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves que tu imagines et tu as plein de raisons d'être content. » C'est pour ça qu'il faut réguler en disant « surtout, on ne conteste pas l'émotion. » Et puis, et comme ça, on fera fonctionner le premier guichet de l'intelligence émotionnelle qui demande « qu'est-ce que tu ressens ?» Il y a un deuxième guichet derrière qui demande « explique-moi ce que tu ressens, pourquoi tu ressens ça ?» Et là aussi, notre tendance naturelle va toujours être d'interrompre celui qui explique le contenu de son émotion. C'est normal, c'est pas parce que par malveillance, au contraire, quand on est proche, on sent qu'on va être emporté par le flux émotionnel. C'est pour ça qu'il faut des professionnels qui, eux, ne vont pas contester l'émotion. Vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste et racontez-moi. Et comme je ne suis pas proche, puisque je suis professionnel, eh bien, je vais pouvoir entendre sans me laisser emporter. Par contre, le parent, on est programmés tous les uns comme les autres par rapport à nos proches pour avoir des gestes, par exemple, de consolation. Mmh. Et si je prends quelqu'un dans mes bras, je l'empêche en même temps de parler. Mmh. Ça veut dire que le pourquoi, il ne me le dira pas. Dans un espace de parole régulé, on donne un bâton de parole et la règle, c'est personne ne va t'interrompre. On va se retrouver avec quelqu'un qui va raconter le contenu de son émotion et qui va créer de la contagion émotionnelle. Si vous voulez faire un petit exercice et voir comment ça fonctionne, vous tapez Keaton, c'est un petit garçon américain. La maman a eu un réflexe tout à fait prodigieux. Elle a filmé son petit garçon en train d'expliquer pourquoi il vivait le harcèlement. Ça dure 9 minutes. Vous allez voir, il fait un buzz énorme. C'est impossible, si les neurones miroirs n'ont pas été neutralisés, de ne pas avoir les larmes aux yeux. On l'a tous, ça produit cette contagion émotionnelle. Et si vous regardez les messages, d'ailleurs, il y a des centaines de milliers, on est proche du million de messages, et vous allez voir au milieu de ces messages, des messages terriblement agressif vis-à-vis de la maman. Comment une maman peut laisser parler son enfant sans l'interrompre, au point que cette maman a dû faire un petit clip pour expliquer, je l'ai fait pour sensibiliser. Mais évidemment que j'avais envie de prendre mon enfant dans les bras, mais tout ça pour dire que ce n'est pas naturel et qu'il faut donc réguler les espaces de parole. Le troisième règle d'un espace de parole régulé, c'est qu'on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. C'est vraiment important de pouvoir, à un moment donné, ne pas transformer ça en tribunal. Ce n'est pas ce que le harceleur veut. Le harceleur, ce qu'il veut, c'est que ça se démonte. Ce n'est pas que ça a attaqué le harceleur. Et ça va permettre de faire fonctionner le troisième guichet qui ne demande pas pourquoi tu vis une émotion, mais pourquoi. Et la quatrième règle, c'est de dire à un enseignant, surtout, ne rien proposer soi-même comme solution, mais s'appuyer sur les ressources du groupe, parce que la contagion émotionnelle fait que quand on demandera pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cette émotion, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne soit plus triste, pour qu'il ne soit plus en colère, pour qu'il n'ait plus peur, on voit tout de suite des ressources se mettre en place dans le groupe. C'est systématique. Il y a systématiquement un mouvement dans le groupe qui déconstruit la prise de pouvoir du harceleur. Alors ça, c'est une partie du dispositif qui va créer de l'empathie. Mais ce n'est pas suffisant par rapport au cyberharcèlement qui est beaucoup trop virulent, qui va beaucoup trop vite. Et il faut pouvoir là dire, attention, dans nos sociétés, qu'elles soient belges ou françaises, on a à peu près les mêmes lois. Je dirais même que les lois en France sont un tout petit peu en avance parce que vous avez eu l'affaire Valbuena qui a créer une forme d'accélération du processus qui fait que, par exemple, dans la pornodivulgation, dans le revenge porn, celui qui diffuse les images peut être attaqué légalement. Ce n'est pas le cas encore en Belgique. Et donc, on a un arsenal de lois qui n'est pas tout à fait, je vais dire, abouti, mais qui permet déjà d'avancer et qui permet aux écoles de servir de courroie de transmission. Une école doit pouvoir dire « le cyberharcèlement est interdit ». Il n'est pas question d'utiliser les réseaux sociaux de manière asociale. J'ai cité tout à l'heure Victor Hugo en disant que l'école doit pouvoir neutraliser la face de la roue qui broie les gens, puisque l'école, maintenant, va de plus en plus utiliser les ordinateurs comme médias pédagogiques. Ça veut dire que si on ne neutralise pas la partie qui broie les gens, il y a une forme d'irresponsabilité. Ça veut dire qu'on dit, voilà, il n'est pas question d'agresser sur les réseaux sociaux ou de même de les utiliser de manière asociale. Et lorsqu'il y aura un usage asocial des réseaux sociaux, il y aura donc une sanction. Alors, évidemment que les écoles ne doivent pas faire des enquêtes. Les enquêtes sont absolument impossibles en tout cas au niveau d'une école, parce que c'est une meute de personnes sur des réseaux fulgurants dans lesquels je vais très vite éteindre l'épreuve, donc vous ne saurez rien prouver. Et ce n'est pas le but de l'école, les écoles ne sont pas équipées pour mettre en place des systèmes juridiques ou judiciaires. C'est donc un système pédagogique qui émet les sanctions. Alors ça se passe de cette manière-là, l'enfant qui est supposé avoir fait une agression numérique peut se choisir ce qu'on appelle un porte-voix, c'est-à-dire un adulte de la communauté scolaire en qui il a confiance, à qui il va expliquer les raisons de son agression numérique, et il va s'expliquer. Ce qu'on constatait systématiquement, c'est qu'il effaçait tous les messages et disait « j'ai rien fait ». Ok, t'as rien fait, on te dit pas que tu as fait, on n'est pas une structure juridique et judiciaire qui cherche la preuve, on te dit si tu as pas fait, ah bah tu fais pas, et si tu as fait, tu refais pas, mais à partir de maintenant on te prévient, il y aura des copies d'écran. Et on a mis en place maintenant une application qui est actuellement en train de se généraliser à partir de janvier, enfin, en tout cas être mis à disposition de toutes les écoles, qui est le CyberHelp, qui est simplement l'équivalent d'un petit bouton rouge qui est au coin de l'écran. Si je suis agressé d'un point de vue numérique, j'appuie sur ce petit bouton rouge. Aussitôt, il y a un tutoriel qui se met en mouvement et qui réalise des copies d'écran. Et puis, un deuxième petit bouton apparaît. Si tu estimes que tu es cyberagressé, appuie sur ce bouton-là. Aussitôt, les dossiers qui ont été copiés sont envoyés à l'école. Et il y a un message qui intervient tout de suite. Ne t'inquiète pas, on va apporter une réponse. Et notamment, ces sanctions probatoires qui dit effectivement, si tu recommences, voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Et lorsqu'on émet une sanction probatoire, on permet d'éviter dans la durée que la personne utilise une nouvelle fois de façon asociale les réseaux sociaux. Et vous avez deux numéros de téléphone qui apparaissent, celui d'un référent numérique, c'est quelqu'un qui connaît le dispositif à qui l'enfant peut s'adresser. Et si tu préfères parler à quelqu'un de ton âge, ce qu'on appelle les cyber-citoyens responsables, ce sont des enfants qui connaissent le dispositif, des adolescents, qui connaissent le dispositif et qui vont juste servir d'oreille humaine, je vais dire, pour intensifier le message de l'alerte. Et donc, ce sont des systèmes d'alerte. On ne peut pas imaginer avoir une réponse cohérente par rapport, notamment au cyberharcèlement, si on n'a pas un système qui stimule l'empathie dans les groupes, un système qui émet des sanctions en cas d'usage asocial des réseaux sociaux, mais sans produire de sentiment d'injustice, et un signal d'alerte directement accessible sur les réseaux sociaux et qui transcende tous les réseaux sociaux. On a essayé de travailler avec les réseaux sociaux, on a essayé avec Facebook, on a essayé. Tout ce qu'ils sont prêts à faire, c'est émettre des messages du style « c'est pas chouette le harcèlement, c'est pas chouette, soyez sympas les uns avec les autres », mais aucun ne voulait prendre en place les choses. C'est Microsoft qui nous a aidés en mettant en place un informaticien et un service d'informatique qui a permis de transcender les réseaux sociaux. Et donc, une école qui est équipée du CyberHelp, c'est une école qui verra tous les élèves télécharger une application qui permette d'être protégé en cas d'agression numérique.
C'est super, bravo Bruno, c'est vraiment une belle progression, ça. Parce que ça n'existe pas en fait jusqu'à présent.
Alors c'est en train de se mettre en place au Luxembourg, en Belgique ça va, je l'espère, commencer à se généraliser. Il faut savoir que pour que ça puisse s'appliquer, il faut que les écoles soient équipées. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un système d'alerte et puis que l'école reçoive des messages et puis se dise mince, on est démunis. Donc il faut d'abord équiper les écoles, mais je le disais tout à l'heure, ça va très très vite, puisqu'on a renoncé au système de formation qui est très chronophage, qui ne satisfait pas les enseignants, parce que les enseignants se disent mais oui, avoir 3 jours, 4 jours de formation pour finir à la fin de la formation par entendre, c'est compliqué tout ça. Non, ce qu'ils veulent, c'est dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire, donnez-nous des outils, des techniques et répondez à nos questions une fois qu'on a les outils à notre disposition. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire prenez les outils et puis maintenant débrouillez-vous. Et donc, je fais essentiellement la diffusion d'outils et puis ce qu'on appelle des foires aux questions, où les enseignants disent tiens, qu'est-ce qu'on fait quand, comment on fait ci. Je ne suis pas plus malin qu'un autre, mais ayant voyagé dans toutes les écoles, dans un nombre important d'écoles, je pense que l'ensemble des problèmes ont fini par faire en sorte que cet outil est devenu quelque chose qui s'adapte à l'ensemble. Alors, il faut aussi comprendre qu'il ne s'agit pas de dire l'école va gérer tout toute seule. Il y a un système juridique et judiciaire qui existe. D'ailleurs, au niveau du CyberHelp, on doit donner une garantie absolue à l'élève que les images ne seront pas transmises à son parent. Si vous avez des images de vous sans vêtements ou des images intimes, vos premières relations sexuelles qui ont été filmées, il y a une chose que vous ne souhaitez pas, c'est que vos parents tombent un jour sur les images. Et donc, si on avait dit aux adolescents, attention, si vous appuyez sur le CyberHelp, on devra prévenir vos parents et ils prendront connaissance des images, ça aurait été contre-productif. Donc, on leur dit non, on ne prendra pas, on ne donnera pas les images aux parents. Mais aucune école ne peut dire, on va gérer ça sans prévenir les parents. Donc, les parents sont appelés et puis ils sont amenés à prendre une décision. On leur dit, voilà, votre enfant s'estime victime d'une agression numérique. Nous avons 3 options pour vous. Première option, qui est une option, la réponse pédagogique. celle du dispositif dont je viens de parler. Et donc, on va mettre en place des espaces de parole régulés et des conseils d'éducation disciplinaire pour pouvoir stopper et mettre des sanctions qui vont stopper dans la durée et le faire de façon immédiate, les mécanismes d'agression numérique. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi porter plainte. Le système juridique et judiciaire peut effectivement recevoir votre plainte. On vous invite alors à aller à un service de police et on va transmettre le dossier à la police sans passer par vous. Et la police, le CyberHelp a été mis au point sur le plan pédagogique, j'y ai travaillé, sur le plan juridique et judiciaire par Olivier Bogart, qui est commissaire à la Cybercrime Unit, et qui a mis en place le dispositif pour qu'il puisse être en phase avec la procédure juridique et judiciaire. Si vous allez porter plainte pour cyberharcèlement, le policier va vous demander « montrez-moi quelque chose ». Je dois avoir quelque chose qui ressemble à du papier, sinon il ne sait pas enclencher la plainte. Ici, les dossiers, les copies d'écran vont permettre de lancer la plainte en sachant, et là vous avez un petit souci en France quand vous voulez accélérer les procédures, la procédure juridique et judiciaire, elle est nécessairement lente. Ce sont des enquêtes compliquées qui supposent énormément de personnes et qui généralement produisent ces résultats qui peuvent être décevants dans la durée, parce que comme c'est une agression de meute, la responsabilité et la culpabilité partagée, c'est parfois très décevant. Mais ça permet de contrôler le phénomène dans la durée aussi, et donc dire « ok, on va laisser au système juridique et judiciaire le temps de faire son action de poursuite, mais on va tout de suite empêcher les choses de se reproduire d'un point de vue pédagogique », c'est la troisième option, la réponse juridique couplée à la réponse pédagogique.
Oui. Mais là-dedans, est-ce qu'on n'oublie pas les parents ?
Ah non, absolument pas, parce que justement, ce sont les acteurs principaux dans la mesure où ils connaissent ce dispositif. On ne met en place ce dispositif à l'école qu'après l'avoir communiqué aux parents. Un bon parent, ce n'est pas un parent qui va à l'école régler les problèmes, c'est un parent qui connaît la façon dont l'école peut régler le problème. Ça veut dire que si mon enfant est victime de harcèlement, pas nécessairement de cyberharcèlement, et que je sais que des espaces de parole existent, je vais effectivement le diriger vers des espaces de parole régulés. S'il est question de cyberharcèlement, je sais qu'il y a des conseils d'éducation disciplinaire, et donc à partir de ma posture de parent, je vais préparer même mon enfant à parler dans ces espaces de parole. Moi, je le fais très souvent quand je reçois des enfants, des adolescents qui sont victimes de harcèlement. Généralement, un grand nombre d'entre eux viennent et l'école dans laquelle ils sont n'est pas équipée. Connaît vaguement le dispositif, mais ne l'a pas mis en place. Je ne peux pas lui dire « tu attends que toutes les écoles de la Fédération Unie-Bruxelles soient équipées, après tu verras ça, il va mieux, sinon il va être complètement désespéré ». Je lui dis « voilà, donne-moi le nom de quelqu'un en qui tu as confiance, généralement c'est un éducateur, un enseignant, ou l'instituteur, l'institutrice s'il est en primaire, et je vais le contacter ». Je prends contact avec la direction de l'école, je n'ai jamais eu le moindre refus. Hein. Les écoles ne sont pas du tout défensives sur ce plan-là, pour autant qu'on ne les agresse pas et qu'on leur dise « on a la solution ». Et donc voilà, est-ce que je peux prendre contact avec l'enseignant que l'enfant a désigné comme étant sa personne de confiance pour mettre en place l'espace de parole régulé ? Là, je vais expliquer comme je l'ai fait ici, mais dans une version synthétique, comment faire pour mettre en place l'espace de parole régulé. Je me mets à la disposition de l'enseignant s'il a un souci, même pendant l'espace de parole. Donc, je lui donne mon numéro de portable parce que certains enseignants ont juste besoin d'avoir un numéro à appeler en cas de souci. Et je vous assure que les enseignants, ils n'abusent pas. Hein. Ils savent très bien, effectivement, mais ils se sentent alors mieux en phase. Et on active les outils. Et quand j'explique à un adolescent, à un enfant, comment va fonctionner l'espace de parole régulé, j'utilise les mêmes émoticônes. J'invite toujours les parents à avoir la collection des 5 émoticônes pour simplement dire à leur enfant « dis-nous comment tu veux, on peut s'entraîner, tu nous dis comment tu vas parler de ton problème, quelles émotions tu vis ?» Plutôt que d'essayer de prouver aux autres que tu es harcelé dans un espace de parole qui n'est absolument pas régulé et dans lequel tu risques de faire en sorte que le groupe se retourne contre toi, dis-nous comment tu vas parler de ton émotion dans un cadre où ta prise de parole sera protégée. Et donc, les parents qui connaissent l'outil peuvent le faire avec l'enfant pour que l'enfant aille dans l'espace de parole régulé. Après, tu viens et tu nous dis comment ça s'est passé ou tu nous dis comment tu as vécu les choses. Et surtout, c'est toujours le réflexe qu'on doit avoir en tant que parent premier réflexe, c'est toujours dire à son enfant, c'est plus ton souci d'enfant, c'est notre souci d'adulte, c'est à nous à faire en sorte que ça s'arrête. Et le deuxième, tu es autorisé à me harceler jusqu'au moment où c'est fini. Il ne faut pas essayer, pour me faire plaisir, de dire que ça a été, il faut que tu me dises jusqu'au bout. Et je me souviens d'un petit garçon à qui j'avais dit ça, tu es autorisé à me harceler jusqu'au moment où ça s'arrête. Je me retrouve à Hatt aussi, dans une petite ville du Hainaut occidental, et je le vois au premier rang d'une de mes conférences. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, vous avez dit que je pouvais vous harceler jusqu'au moment. Je viens à toutes vos conférences tant que c'est pas fini. Il avait parfaitement compris ce qu'on attendait effectivement d'un enfant, parce que l'école peinait, mettait du temps à mettre en place les espaces de parole régulés. Et donc surtout, ne jamais produire, quand on travaille dans le domaine du harcèlement, ne jamais produire de la désespérance. Les enfants ont tendance, les adolescents ont tendance à être désespérés. Le désespoir, c'est quand vous vivez quelque chose de difficile et que vous avez l'impression que vous allez le vivre toute votre vie. La désespérance, c'est encore un pas supplémentaire. C'est même si j'en parle à des adultes, je ne suis pas sûr qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Et donc là, vous rentrez dans cette forme de désespérance. C'est pour ça que les enfants ont besoin d'adultes qui ne soient pas désespérants, parce qu'ils n'entretiennent pas ce désespoir, et qui puissent leur dire « on sait comment faire ». On pense que ça peut marcher, et si ça marche pas, on a d'autres choses, parce qu'il y a d'autres manières de faire aussi, qui peuvent aller encore plus loin dans la mise en place des outils. Et c'est pour ça que les parents ne doivent pas du tout rester sur le côté. Ce sont eux qui donnent les alertes à l'école, très souvent, et qui permettent à leur enfant d'alerter l'école. Mais ils ne doivent pas agir eux-mêmes, parce que ça, c'est effectivement une confusion de rôle qui crée beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Quand les parents vont à l'intérieur de l'école pour essayer de régler eux-mêmes le problème, généralement, ils obtiennent juste ce qui a été magnifiquement mis en scène dans la pièce Carnage, c'est-à-dire qu'ils intensifient le problème ou ils l'exportent entre les adultes qui le gèrent encore plus mal que les enfants.
Merci Bruno, je vois que le temps file, ça fait déjà pas mal, c'est une heure là, qu'on t'écoute, qu'on boit tes mots. Merci beaucoup. J'imagine que parmi les 40 livres que tu as écrits, il y a des livres qui sont à destination plus des parents, d'autres plus des enseignants.
Oui, il y en a qui sont clairement, « 10 c'est quoi le harcèlement scolaire » par exemple, est un livre qui est clairement à destination des parents. Il y en a un qui va sortir en janvier chez Odile Jacob, qui est le harcèlement et le cyberharcèlement côté parents, donc c'est vraiment pour eux, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand mon enfant est harcelé même par un prof, parce que le harcèlement prend différents visages. Comment je fais pour travailler avec l'école et pas contre l'école? Donc il y a des petits trucs pour essayer de stimuler ce qu'on appelle la coéducation, c'est-à-dire faire en sorte que nos enfants soient élevés dans des communautés éducatives qui soient le plus harmonieuses possible.
Bien sûr. Donc j'imagine que c'est assez simple, on va sur un moteur de recherche, on tape Brodenbeek, on trouvera facilement.
Principe, oui. Et si on tape mon nom plus harcèlement, on va trouver tous les livres sur le harcèlement. Et si pas, je t'envoie avec beaucoup de plaisir la liste des bouquins.
Oui, ça marche. Est-ce qu'on peut te contacter facilement?
Alors, pour info@cliniquedelaresilience.be, ça c'est le mail professionnel qui permet d'avoir l'accès le plus direct.
D'accord, ok, super. Merci beaucoup, voilà. Encore Bruno.
Merci à toi.
Une très très belle fin de soirée et je te dis
aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.